Philippe Ménard, vous êtes l'auteur de L'AVC qui m'a sauvé la vie aux éditions Le Bord de l'eau. Peut-être en deux mots, notre émission est une émission de témoignage et tous les soirs les gens témoignent de 22h à minuit. Et on a eu il y a 2 ans quelqu'un qui a eu comme vous un AVC, qui était aussi engagé dans la politique, mais alors chez nous en Suisse ça a l'air d'être plus calme que chez vous, on en parlera peut-être tout à l'heure, en tout cas dans votre livre j'ai trouvé qu'il y avait de la part de certains de vos opposants beaucoup de violence, mais enfin ça c'est peut-être nous les Suisses qui sommes un petit peu naïfs. Vous avez été élu très jeune, du reste comme adjoint, puis maire, puis comme conseiller régional, jusqu'à ce que, à l'âge de 43 ans, un AVC vous touche. Cet AVC, après lequel, eh bien, vous avez dû réapprendre véritablement à vivre. Si vous êtes d'accord, est-ce qu'on peut juste en un mot planter le décor? Vous pensez que cet AVC il peut être lié à cette surabondance de travail, ce stress? Parce que dans le livre, vous racontez un événement le jour avant quand même qui a été très stressant pour vous. Vous pensez que ça pourrait être lié à ça ou pas du tout?
Bah, je pense que le surmenage et le stress contribuent à un déséquilibre de l'être humain. Pour autant, moi qui suis encore aujourd'hui un hyperactif, oui, je crois que ce qui fait du mal à l'homme et à la femme, mais à l'homme avec un grand H, c'est les relations toxiques et cette volonté de détruire l'autre pour diverses raisons. Je pense qu'effectivement la vie peut mener avec un engagement politique qui était le mien, pas uniquement pour bâtir au quotidien, mais aussi pour éviter les balles, hein, pour éviter la méchanceté au quotidien, n'a pas aidé, voilà. N'a pas aidé à s'écouter la discussion précédente que vous aviez. La recherche permanente du bonheur et de la paix intérieure, elle peut être aussi en politique. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé.
Vous aviez face à vous des gens qui, même après votre AVC, avaient tendance à dire que vous aviez fait exprès pour repasser les élections, hein, des choses comme ça qu'on lit dans le livre. Et du reste, après votre AVC, vous êtes reparti en campagne électorale. C'était comme une volonté de se dire, de vous dire, je n'ai pas changé, je suis toujours capable. Ou c'était parce que vous avez la politique dans le sang, Philippe?
En fait, il y a une particularité dans mon AVC, c'est que je l'ai eu en pleine campagne électorale. Lorsque ça m'est arrivé à la maison où les pompiers sont venus me chercher, je suis tombé dans le coma aussitôt et j'ai recommencé à ouvrir les yeux et à voir mes proches 15 jours après. Donc, il y a deux mondes et deux planètes sur lesquelles je me suis rendu compte après, sur lesquelles l'instant est vécu. Il y a mes proches, ma famille qui, dans cet instant aigu, vit la situation comme un séisme. C'est un séisme. Et puis il y a ma commune, il y a mon équipe municipale, il y a l'équipe de campagne. Et puis il y a moi, si vous voulez, qui... Donc j'ai été victime d'un AVC à 3h du matin et je ferme les yeux et je rouvre les yeux et j'ai les neurones qui recommencent à se connecter 15 jours après. Donc on a 15 jours de retard dans la perception des choses. Donc quand je suis revenu à moi, ben en fait c'était comme le lendemain de ma présence à la mairie. Donc je voulais revenir, je voulais travailler, c'était les élections, donc je voulais aller au bureau de vote, je voulais aller à l'élection du maire parce que j'étais persuadé que j'allais gagner, et je voulais présider le conseil municipal où on votait le budget. Enfin, moi j'étais dans mon monde et Et en fait, ceux qui étaient autour de moi avaient vécu pleine figure la situation que moi j'allais mettre jour après jour à découvrir et à constater les dégâts.
À quel moment vous vous êtes dit « il faut que j'arrête de me mentir » ?
Je crois que je suis sorti... en fait, il y a différentes phases, différentes périodes. Il y a celle du déni qui était davantage liée à... justement à l'absence de d'avoir vécu cette phase aiguë. La fois où je me suis dit « tu ne peux pas continuer », c'est quand je suis revenu à la mairie pour présider le conseil municipal où on votait le budget et où je me suis rendu compte que de la méchanceté de mon opposition qui avait été élue, des gens qui étaient là, et surtout que je me rendais compte que j'étais une 4L cabossée sur un circuit de Formule 1 et que j'ai descendu très péniblement l'escalier qui mène à la salle du conseil municipal et qu'en sortant de la mairie, mes adversaires ont foncé sur moi,
ont
posé plein de questions avec plein de méchanceté et tout ça. Et je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Voilà, ils auraient pu me détruire et aujourd'hui, je choisis de vivre. Donc je rentre chez moi. Je me rendais compte que ça allait être très très dur, mais au final, j'ai compris à cet instant qu'on était définitivement plus dans le même monde, quoi.
Et que vous ne seriez jamais comme avant.
Ah, moi, je c'est pire que ça. C'est-à-dire que j'ai rapidement compris que je n'étais plus rien. C'est-à-dire qu'il y a deux choses dans votre question. Moi en tant qu'homme public et en tant qu'élu, et puis moi en tant qu'être humain. Et je me suis rendu compte que j'avais été élu, j'avais 18 ans, donc vous avez détaillé les différents mandats que j'ai obtenus très jeune. Et au final, c'était plus de la moitié de ma vie, en fait. Et j'avais passé 25 ans à la mairie et j'avais 43 ans. Et donc, quelque part, j'étais comme un train sur des rails. Et j'aurais été parlementaire, très certainement. Et en fait, je me rendais compte que c'était définitivement terminé. Et comme c'était définitivement terminé et que ma vie avait été... quelque part orchestré, organisé par rapport à tout ça, du coup, j'avais le sentiment de ne plus être rien du tout, puisque je n'étais entre guillemets que l'homme public, avec la prise de conscience aussi de certains choix qui n'ont pas été ceux qui équilibraient l'être humain parce que la politique prenait trop d'espace, trop de place dans ma vie. Mais assez rapidement, en fait. Assez rapidement, ce qui a été adouci, c'est de voir que la rééducation intense à laquelle je m'adonnais m'a permis de remarcher, de réécrire, de remuer les bras, les jambes, de reparler correctement. Donc quelque part, ma vie était vide, mais j'avais cette faculté d'avoir tous les atouts pour écrire à partir d'une feuille blanche.
Et vous dites à un moment donné, hein, je suis très heureux de ce train-train rééducatif. Hein, ça vous a donné du courage, un courage énorme. Ça aussi, c'est quelque chose qui est incroyable. L'accompagnement, les médecins, les spécialistes qui sont autour de vous, la bienveillance qu'il y a eu, alors pas dans le milieu politique, mais auprès de vos médecins, auprès de des femmes et des hommes de santé.
Vous savez, c'est la première fois d'ailleurs que je vais dire ce que je vais dire là. En fait, j'ai découvert ce qu'était la bienveillance. J'ai découvert ce qu'était la gentillesse. C'est-à-dire quand vous êtes... dans un train d'action, de méchanceté, de jalousie, en n'ayant jamais marché sur qui que ce soit pour y arriver. Mais quelque part, j'étais très jeune en fait, hein. J'étais peut-être trop jeune pour avoir vécu ce que j'ai vécu. Et donc finalement, je croyais que c'était ce que je vivais, la vie normale en fait. Et après avoir été victime de l'AVC, tout le monde a été extrêmement gentil avec moi, que ce soit l'équipe de chirurgie au CHU, au centre hospitalier universitaire, qui s'est occupé de moi, toute l'abnégation qui était la leur dans les différents hôpitaux, les centres de rééducation dans lesquels j'ai été pris en charge. J'ai découvert en fait la bienveillance, la gentillesse, et je me suis rendu compte que tout compte fait, c'était pas moi qui étais anormal, quoi.
À un moment donné, du reste, et vous citez effectivement cette phrase incroyable de Confucius, c'est ce qui va présider à votre décision d'arrêter évidemment la politique telle que vous la pratiquez. On a deux vies, la deuxième commence quand on se sent et quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Et là, il y a une vraie prise de conscience chez vous à ce moment-là. Ça doit pas être facile quand même quand on a consacré toute sa vie ou une bonne partie de sa vie, et la moitié, plus de la moitié de sa vie aux autres, quoi.
Ben, reste à savoir ce qu'est la vie et ouais. Est-ce qu'il est possible d'être soi-même de vrai pour les autres, de vrai au quotidien et que ça nourrisse, en fait, ça nourrisse votre être. Et quelque part, est-ce qu'être disponible pour l'autre, est-ce qu'être bienveillant, à l'écoute, aider, est-ce que c'est possible? J'ai toujours cru, dans mon engagement politique, que c'était... en faisant du bien à l'autre, qu'on se faisait du bien aussi à soi. Et d'ailleurs, dans mon village, enfin, j'ai été élu, réélu au premier tour. Mais en fait, c'est marrant, j'ai discuté avec un de vos confrères, avec qui j'ai déjeuné, et en fait, il m'a expliqué, il m'a dit, quand vous avez fait votre AVC, on était tous malheureux parce qu'on trouvait ça tellement injuste, vous étiez tellement atypique. Et en fait, je me rends compte de ce qu'il a voulu dire. En fait, être atypique, c'était beaucoup travailler pour l'autre, pour mon village, en faisant en sorte que les autres soient heureux, qu'ils m'aiment aussi. Voilà, j'ai compris, j'ai fait 6 ans de thérapie et donc j'agissais aussi pour des qualités relationnelles. Et en fait, j'ai souri parce que pour lui, c'était atypique. Et en fait, moi, c'est ce que je recherchais. Et c'est ce que je recherche aussi aujourd'hui. Sauf que j'ai appris aussi, j'ai écouté Confucius et j'ai appris à dire non. C'est-à-dire qu'une relation avec l'autre n'est utile que si elle nous permet de grandir et l'un et l'autre, si elle est... toxique, destructrice, si elle me fait du mal, elle n'a plus aucun intérêt.
Alors, disons-le, parce qu'on n'en a pas parlé du tout, mais une des raisons pour lesquelles il y a eu autant de toxicité autour de vous, c'est aussi parce que vous êtes un des rares élus à avoir, à un moment donné, affiché votre homosexualité.
Oui, on a eu, il y a quelques années, en France, alors je sais que pour vous, ce que vous avez entendu de ce qui s'est passé en France, ça vous a un peu éberlué en regardant tout ça. Vous savez, avant le mariage, on a eu des débats sur le PACS, donc le fait de pouvoir signer un contrat d'union à deux, et c'était extrêmement violent. Et j'étais dans un parti politique où il y avait une dame qui s'appelle toujours Christine Boutin et qui était un peu la passionnariat de la lutte contre le PACS. Et moi, j'ai dit, ben non. Voilà, est-ce que tu choisis ta carrière politique, ton relationnel politique national, ou est-ce que tu choisis l'être humain ? Oui, si tu choisis l'être humain, ben, il faut que ce que tu défends soit cohérent avec ce que tu es. Et donc, j'ai dit à ce moment-là quelle était ma vie. Et forcément, ben, ça déchaîne un petit nombre de gens qui font beaucoup de bruit et qui, par tous les moyens, cherchent à vous faire trébucher, à vous... C'était en fait, j'ai découvert ce qu'était la haine, et en fait, j'ai pas été élevé dans ça. Donc, cette haine destructrice m'a fait beaucoup de mal à l'époque. Mais et ça aussi, je pense que ça a été le terreau de mon AVC.
Merci beaucoup. L'AVC qui m'a sauvé la vie, Philippe Ménard, aux éditions Le Bord de l'eau. Merci infiniment d'avoir accepté de partager avec nous sur ce sujet, autour de cette thématique de la semaine de la ligne de cœur, la vie après. Merci infiniment, je vous souhaite tout de bon, comme on dit chez nous, prenez soin de vous, et puis à bientôt j'espère. Bonne nuit, au revoir.
Merci.
Et voilà, la ligne de cœur, c'est vous qui la faites maintenant.